Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre entretien avec Karel Köcher. Karel Köcher, c'est cet ancien agent des services secrets tchécoslovaques qui a réussi à infiltrer la CIA américaine à une période où la guerre froide était particulièrement chaude. Resté pendant 20 ans sur le territoire américain, il a transmis un nombre conséquent de précieuses informations à Prague. Des informations qui allaient bien évidemment directement vers Moscou. Et c'est de Moscou que viendra sa perte, puis son salut. Karel Köcher et son épouse Anna sont arrêtés sous les objectifs de nombreuses caméras en 1984, c'était à New York. Selon lui, l'homme qui l'a balancé n'est autre que l'ancien chef du KGB, le général Kalugin, devenu depuis un citoyen américain et jugé par contumace à Moscou à 15 ans de prison pour trahison. Tout de suite, on retrouve Karel Köcher qui nous parle d'abord de son expérience du milieu carcéral américain et du plan qu'il a élaboré pour en sortir. Combien de fois votre vie a-t-elle été réellement en danger?
Au minimum une fois. Cela s'est passé quand je me trouvais en prison de sécurité maximale à New York.
Après votre arrestation en 1984.
Ah oui, après mon arrestation. Et dans la cellule voisine, on y a placé un jeune plusieurs fois meurtrier qui s'est mis à me menacer sans aucune provocation de ma part. Les gardiens lui a donné les ciseaux sous prétexte de pouvoir se couper les cheveux. Remarquons qu'il s'agissait d'une prison de sécurité maximale. Sa cellule, en différence de toutes les autres, restait tout le temps ouverte. Un jour, quand je pouvais quitter pour quelques minutes ma cellule pour prendre le déjeuner, ce jeune meurtrier se jetait à moi avec un couteau fabriqué de ce ciseau. Mais l'attaque n'a pas réussi.
Quelqu'un vous a sauvé la vie?
Ah oui. Et il partageait la cellule avec un certain Sandy Alexander, président des Hells Angels de New York, qui s'est lié d'amitié avec moi en prison. Il pouvait observer directement la préparation de l'attaque. Il m'a averti d'avance et puis, au moment de l'attaque, il a sauté sur l'agresseur et lui a enlevé le couteau. Tout a été fini parce que Sandy jouissait d'une autorité immense parmi les prisonniers et l'agresseur n'a plus osé. Peu après, il a été transporté ailleurs.
C'est le genre d'ami en prison qu'on souhaite, j'imagine, le président des Hells Angels.
Et beaucoup d'années après, Sandy essayait de recevoir l'information sur le passé criminel de cet homme, mais le détective engagé par lui a révélé que toute la documentation sur son séjour dans cette prison a disparu.
Ce qui vous laisse penser, vous, que les autorités américaines et les services secrets américains ont tenté délibérément de vous assassiner?
Oui, oui, oui. Je n'ai aucun doute qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat planifiée. D'ailleurs, cela n'a pas été le premier cas. Avant cela, déjà, on a placé dans ma cellule un fanatique musulman qui était gardien personnel de Farrakhan, leader de musulmans noirs.
Louis Farrakhan.
On espérait réussir à l'exciter contre moi. Mais au lieu d'une tension et d'un conflit meurtrier, une amitié s'est créée entre nous deux. Et après, on l'a mis évidemment dans une autre cellule.
Et pourquoi est-ce que les autorités américaines ou les services américains auraient cherché à se débarrasser physiquement de vous?
Mais à mon avis, la justice américaine est arrivée à la conclusion que lors d'un procès, le tribunal devrait m'acquitter. D'une part à cause de manque de preuves, d'autre part parce que, encore avant mon arrestation, les représentants de FBI et CIA m'ont promis l'immunité à condition que j'accepte de travailler dans l'avenir du côté américain. Évidemment, je l'avais accepté pour gagner le temps. Mais en dépit de ça, j'étais accusé.
C'est-à-dire, ils n'avaient pas de preuves et les seules preuves qu'ils ont obtenues, c'était en contrepartie d'une promesse d'immunité. Donc, c'était des preuves qui n'étaient pas valables.
Oui. Le procureur, c'était Rudy Giuliani, qui préparait alors sa candidature au poste de maire de la ville de New York. Un échec au procès compromettrait sa réputation.
Dans un documentaire qui a été récemment filmé par des Canadiens, on voit même votre avocat totalement abasourdi par votre idée, puisque c'est de vous qu'est venue l'idée d'un échange entre Moscou et Washington contre vous, votre femme et Anatoly Sharansky et sa femme sur le pont de Potsdam. Comment est-ce que cette idée vous est venue ?
Alors, l'explication repose sur ce que j'ai raconté récemment. Le tribunal m'acquitterait, mais j'étais certain de ne pas aller attendre vivant le début du procès.
Vous aviez peur pour votre vie dans cette prison ?
J'avais peur. Je me suis décidé d'écrire une lettre courte au chef de service secret extérieur soviétique Kruchkov, et je l'ai envoyé à Prague par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai décrit la situation et demandé que les soviétiques proposent de m'échanger contre Sharansky. Pourquoi justement Sharansky? Pour deux raisons. Au cas où les soviétiques proposent réellement un tel échange, les Américains ne sauraient pas le refuser à cause de l'opinion publique et surtout de l'influence des Juifs américains. Et puis, je désirais aider Sharansky. Moi aussi, je suis d'origine juive.
Dans la prochaine et dernière partie de cet entretien réalisé avec Karel Köcher, il nous parlera de cette journée historique du 11 février 1985, la journée pendant laquelle il a été échangé avec son épouse sur le pont de Berlin contre Anatoly Sharansky et son épouse qui venait dans le sens inverse. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt sur Radio Prague.